VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge. Au sommaire, ce 23 septembre 2015, l'armée loyaliste burkinabé a signé un accord de cantonnement et de retrait avec la garde républicaine putschiste. Une décision prise après le sommet de la CEDEAO hier qui a demandé aux putschistes d'abdiquer et aux commandants militaires de faire preuve de retenue. Nouvelle médiation de chef d'État ouest-africain à Ouagadougou ce mercredi.
S'ils accordent l'amnistie, c'est tant mieux. S'ils n'accordent pas d'amnistie, ben, nous en tiendrons compte.
Le général putschiste Gilbert Diendéré. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé un référendum constitutionnel. L'armée camerounaise a repoussé de nouvelles attaques de Boko Haram. Ouverture d'un sommet à Bruxelles sur la crise de l'immigration en Europe. Le président chinois en visite aux États-Unis assure que la Chine est un fervent défenseur de la cybersécurité et le pape François en visite à Washington sera l'invité de la Maison-Blanche ce mercredi. La garde présidentielle putschiste et l'armée loyaliste burkinabé ont signé un accord de cantonnement et de retrait qu'ils ont présenté chez le Mukonaba, roi des Mossi, autorité traditionnelle très respectée. Parmi 5 points, le RSP s'engage à accepter le cantonnement et céder les postes de garde à Ouagadougou. De leur côté, les forces loyalistes ont promis de reculer les troupes de 50 km et de garantir la sécurité des putschistes et de leur famille. Mardi, le général Gilbert Diendéré n'avait pas exclu un affrontement tout en se remettant aux conclusions de la CEDEAO. Les dirigeants de la CEDEAO, réunis hier en sommet extraordinaire à Abuja, ont appelé la garde présidentielle à déposer les armes et demander aux autres unités de l'armée de ne pas faire usage de la force, selon le président de la commission de la CEDEAO, Kadré Désiré Ouédraogo, cité par l'AFP. Pour faire le point sur la situation à Ouagadougou, nous avons en ligne Issa Napon, correspondant de La Voix de l'Amérique. Bonjour Issa.
Bonjour Nathalie.
Alors avant de parler de cet accord militaire, quoi de neuf ce matin à Ouagadougou?
Il faut dire que ce matin, tout est calme. Le calme après, bien sûr, les sorties des jeunes encore en fin de soirée pour reprendre les rues. Et tous attendent de voir effectivement qu'est-ce qui ressort de façon claire de l'accord qui a été donc signé cette nuit et de ce qui sera à attendre de l'arrivée donc de la délégation de haut niveau de la CEDEAO tout à l'heure à Ouagadougou.
Alors qu'en est-il de cet accord entre loyalistes et putschistes?
Alors, il faut dire qu'un véritable pas vers l'apaisement a été fait pour éviter un bain de sang ici à Ouagadougou entre militaires putschistes du RSP et l'armée régulière loyaliste. Cet accord acté, vous l'avez dit, en présence du Mukonaba, empereur de Mossé et très haute autorité morale ici au Burkina, a été ainsi signé au Palais Royal par le commandant Abdulaziz Korogo, chef de corps intérimaire du RSP, et 4 officiers loyalistes dépêchés par l'état-major qui permet en lieu et place du désarmement voulu par l'armée régulière, donc, d'avoir le cantonnement de ces militaires putschistes dans leur caserne et le recul de 50 km de la ville de Ouagadougou de l'ensemble des forces armées nationales arrivées de l'intérieur du pays. Au tout point, donc, les militaires du RSP devront abandonner tous leurs postes de contrôle en ville et faire l'inventaire de leurs armes avant 3 jours. Cet accord qui était voué à réussir permet ainsi d'éviter l'affrontement entre des officiers du RSP et loyalistes dont certains se connaissent vraiment bien pour être de la même promotion et au moment donc où une délégation de haut niveau de la CEDEAO est incessamment attendue à Ouagadougou pour, dit-on, remettre en selle le président Michel Kafando, selon les termes même du général Gilbert Diendéré, le chef de putschistes qui a déclaré que le retour du président intérimaire a été acté et qui se plie ainsi à l'intimation de la CEDEAO, qui les a appelés d'ailleurs à déposer les armes.
Merci beaucoup Idriss Issa pour toutes ces précisions. Des chefs d'État ouest-africains doivent effectuer en effet une seconde médiation à ce mercredi à Ouagadougou, après celle de ce week-end engagée par les présidents Macky Sall et Thomas Boniaï. Le principal objectif est de rétablir Michel Cafando dans ses fonctions de président de transition. Des précisions avec Tatiana Mousseau.
Réunis mardi en sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria, les chefs d'État de la CDAO ont appelé la garde présidentielle à déposer les armes et demander aux autres unités de l'armée de ne pas faire usage de la force pour éviter des pertes en vies humaines. Ils ont également décidé de dépêcher mercredi une délégation de présidents pour rétablir Michel Cafando dans ses fonctions de président de la transition au Burkina Faso. Cafando a été libéré lundi par les putschistes après plusieurs jours de séquestration. Mardi, en dépit des ultimatums de l'armée loyaliste, le chef des putschistes et ancien bras droit de Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré, a refusé de déposer les armes, affirmant s'en remettre aux conclusions de la CDAO.
Nous attendrons et nous appliquerons ce que les chefs d'État vont décider au niveau de la CDAO. S'ils accordent l'amnistie, c'est tant mieux. S'ils n'accordent pas d'amnistie, nous en tiendrons compte.
La délégation de la CDAO attendue à Ouagadougou comprendra les dirigeants du Nigeria, du Niger, du Togo, du Ghana, du Bénin et du Sénégal. Elle vise à engager un dialogue politique avec toutes les parties prenantes dans l'idée de trouver des aménagements négociés par rapport à un premier projet d'accord divulgué dimanche par les présidents sénégalais Macky Sall et béninois Thomas Boniaï, jugé inacceptable par la population et la société civile.
Et un groupe d'experts de l'Union africaine est en train de compiler une liste des personnes qui ont joué un rôle clé dans le renversement du gouvernement de transition au Burkina Faso pour être inclus dans les sanctions ciblées imposées par le Conseil de paix et de sécurité, selon l'ambassadeur Moul Katende, président de ce conseil. Ces commentaires sont venus après le refus par les putschistes de se conformer à un ultimatum de 96 heures pour remettre le pouvoir à une administration civile. Le Burkina Faso a été suspendu de toutes les activités de l'Union africaine après le renversement du gouvernement de transition chargé de diriger le pays pour les élections prévues le 11 octobre. L'armée camerounaise a repoussé de nouvelles attaques de Boko Haram dans le nord du pays. D'autre part, au Nigeria, le bilan des attentats perpétrés dimanche à Maïdougouri par ces islamistes s'est alourdi. Les détails avec Michel Joseph.
Pour ce qui est du Cameroun, des sources que cite l'AFP font état de 17 militants du groupe islamiste nigérian tués et de plusieurs autres blessés lundi et mardi à Amchide, une localité proche de la frontière nigériane. Les insurgés qui avaient effectué une première incursion lundi avaient été repoussés par l'armée camerounaise et étaient revenus à la charge mardi avant de battre en retraite. À noter qu'Amchide est situé près de Banki, ville nigériane contrôlée depuis près d'un non par Boko Haram et que l'armée nigériane s'apprêtait à reconquérir. Au Nigeria même, un nouveau bilan des attentats du dimanche à Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, fait maintenant état de 117 morts, soit plus du double des 54 morts annoncés lundi par le porte-parole de la police de Borno. Les services de secours et des militaires disent avoir dénombré 3 explosions ce jour-là à Maïdougouri, mais des témoins ont fait état de 4 attentats, l'un visant des fans de football regardant un match à la télévision.
En République du Congo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a annoncé un référendum constitutionnel. Une décision prise environ 2 mois après un dialogue national qui n'avait pas abouti à l'unanimité sur la question d'un éventuel 3e mandat du président. Eddy Issango nous en dit plus.
Le président Sassou Nguesso explique dans un message diffusé hier soir à la radio-télévision nationale congolaise qu'il voudrait que le peuple tranche. « J'ai décidé de donner la parole directement au peuple, afin qu'il se prononce sur les projets de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles des fonctionnements de l'État », affirme Sassou Nguesso. La constitution actuelle interdit au chef de l'État congolais de briguer un 3e mandat. En juillet dernier, un dialogue national boycotté par une partie de l'opposition n'a pas pu prendre une option sur la question. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979. Il y est revenu après un deuxième coup d'État à l'issue d'une défaite aux élections en 1992. Sa courte éclipse à la tête du pays était de 5 années, soit de 1992 à 1997.
La crise sur l'immigration en Europe va être au centre d'un sommet de l'Union européenne ce mercredi à Bruxelles. Le point avec Roger Kalala.
C'est une rencontre très attendue qui va se tenir 24 heures après un accord difficilement conclu sur la répartition des 120 000 réfugiés. Il a fallu passer au vote. Le consensus n'a pas été dégagé lors de la réunion des ministres de l'Intérieur qui devait proposer un plan de solidarité en réponse à une crise migratoire en Europe. Les pays de l'Est, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque étaient opposés à ce plan. Mais pour le président français François Hollande, qui s'est félicité de cet accord, l'Europe a pris ses responsabilités envers les réfugiés. Après l'accord, le sommet de ce mercredi pourra donner des réponses à certaines questions. Il s'agit entre autres de l'aide financière aux pays frontaliers à la Syrie. Au total, 1 million de demandes d'asile pourraient être déposées en 2015 dans les pays de l'Union européenne, selon l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE.
Le président américain accueille aujourd'hui pour la première fois à la Maison-Blanche le pape François, autorité morale mais aussi allié politique de taille pour le 44e président des États-Unis. Une foule immense, quelques 15 000 invités, est attendue sur la vaste pelouse de la Maison-Blanche pour accueillir en grande pompe l'homme le plus populaire dans le monde aujourd'hui, selon les termes du vice-président Joe Biden. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco vous est présentée ce matin par Claire Morin-Gibourg.
L'Égypte est intéressée par les deux Mistral que la France devait vendre à la Russie, ainsi que par les deux corvettes Gowind. Mais les discussions avec Paris achoppent sur le prix, affirme le site latribune.fr. Le Caire serait intéressé par ces bâtiments qui seraient positionnés en mer Rouge pour l'un, alors qu'elle a procédé cet été à l'élargissement du canal de Suez, et en mer Méditerranée pour l'autre, alors que la situation en Libye reste une préoccupation pour l'Égypte frontalière. Seulement 2 ans et demi après le lancement de sa ligne Abidjan-Paris, la compagnie aérienne Corsair a décidé de supprimer ce vol par manque de rentabilité. Selon le magazine Jeune Afrique, l'arrivée de Corsair en Côte d'Ivoire avait pour vocation à concurrencer Air France. Mais malgré une guerre des prix engagée avec la compagnie nationale française, Corsair n'aura pas réussi à s'imposer à Abidjan. Sa ligne Dakar-Paris reste quant à elle opérationnelle. 832 cheminots marocains, surnommés les Chibani, c'est-à-dire les cheveux gris en marocain, viennent de remporter une victoire juridique contre leur ancien employeur, la SNCF française. Embauchés dans les années 70, ces travailleurs marocains n'avaient alors pas bénéficié du statut protégé des cheminots. La SNCF a été condamnée pour discrimination et doit verser entre 150 000 et 200 000 euros à chaque Chibani.
Merci Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. À présent, les sports qui vous sont présentés par Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
On commence par du football, match amical Côte d'Ivoire-Maroc.
Oui, la Côte d'Ivoire sera opposée au Maroc en match amical. Ce sera le 9 octobre à Agadir. C'est ce qu'a annoncé la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Les deux sélections sont en préparation pour le deuxième tour de qualification Zone Afrique au Mondial 2018 prévu en novembre.
Dopage dans le foot en Algérie.
Oui, Youssef Belaïli, joueur de l'USM Alger, contrôlé positif, a été suspendu pour 2 ans de toute compétition nationale et internationale pour dopage. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Ligue algérienne de football professionnel. Belaïli ne disputera donc pas les matchs aller-retour des demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique face au club soudanais d'Al Hilal le 27 septembre à Khartoum et au retour le 3 octobre à Alger.
Et en Allemagne, ce record hier, 5 buts en 9 matchs d'un même joueur.
Oui, un fabuleux quintuplé de Robert Lewandowski en l'espace de 9 minutes a permis au Bayern Munich d'étrier Wolfsburg 5-1 et poursuivre son parcours parfait. C'était hier donc à l'Allianz Arena lors de la 6e journée du championnat d'Allemagne. Entré à la pause à la place du défenseur Juan Bernat alors que le Bayern était mené 1-0. Lewandowski a vécu une soirée de réussite insolente en filant les buts comme des perles entre la 51e et la 60e minute. Avec le plein donc de 18 points, le Bayern retrouve donc le fauteuil de leader en attendant la sortie de Dortmund aux 15 points ce mercredi à Hoffenheim.
Merci Bagassi Koura pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. La capitale burkinabé reçoit une délégation de chefs d'État ouest-africains dont l'objectif premier est de rétablir Michel Kafando dans ses fonctions de président de transition. Au sein de la population, nombreux sont ceux qui rejettent le coup de force de Gilbert Diendéré. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Éric Zapson-Ré, un habitant de Ouagadougou.
Nous vivons une situation déplorable avec le général Diendéré que nous appelons aujourd'hui général Karanga. Karanga veut dire quelqu'un qui est nuisible. Aujourd'hui, le peuple tout entier est mobilisé pour chasser Diendéré. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les différents crimes que le général Diendéré a commis depuis Sankara, avec Blaise, les différents crimes au Burkina Faso, fait qu'aujourd'hui, le peuple en a marre de cet homme-là. Aujourd'hui, tout le monde, les gens sont tirés à la maison, attendant que l'armée loyaliste intervienne. Vous savez déjà, on parle des dojos, il y a des populations civiles qui sont très armées, très puissantes, et ces gens viennent à Ouagadougou disant pour aller déloger le général Diendéré.
Donc vous avez le sentiment que votre révolution du 31 octobre 2014 n'est pas terminée?
Effectivement, notre révolution n'était pas terminée parce que comme le RSP a intervenu et que Blaise est parti, donc on est resté à mi-chemin. Mais cette fois-ci, je pense que le peuple ira jusqu'au bout parce qu'il faut que l'on retienne. Il n'y aura plus de RSP, le RSP sera dissous, démantelé complètement. Il faut également retenir que le CDP et tous ses alliés de la Blaise majorité, nous allons les dissoudre. Il n'est même plus question que ces gens-là qui ont commis des crimes de sang continuent à vouloir gérer les hommes au Burkina Faso.
Pourtant, la médiation de la CEDEAO, notamment le président sénégalais et le président béninois, dans le préaccord, sont prêts à leur accorder l'amnistie et que les candidats du CDP puissent participer aux élections.
Mais nous avions suivi cela, mais nous savions que la CEDEAO, c'est une machination de la France. Hein, de M. Boni Yayi, le président sénégalais. Ils n'ont pas contacté le peuple, ils n'ont pas écouté le peuple. Ils ne se sont même pas adressés au président du CNT, ils ne se sont pas adressés au premier ministre Isaac Zida, ni au président de transition Michel Kafando. Ça veut dire que la CEDEAO est venue simplement pour avaliser ce que Diendéré a voulu. Donc la CEDEAO n'a même pas condamné le coup d'État. Cela voudrait dire que la CEDEAO est de mèche avec le CDP, est de mèche également avec le général Karanga, le général Diendéré. Le peuple ne peut pas accepter une amnistie dans ces circonstances-là. Il y a eu beaucoup de morts et ils ont continué à tirer sur les populations. Des enfants sont morts. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est inadmissible.
Éric Zapson-Ré, un habitant de Ouagadougou. Malgré la reprise des programmes hier de la radio Omega FM dans la capitale burkinabé, la situation des journalistes et des médias ne s'est pas améliorée. Éric Manirakiza a joint Gwezuma Sanogo, président de l'Association des journalistes burkinabés.
Du point de vue de la profession des journalistes, rien n'a évolué. Puis ce matin même, on nous fait part encore des menaces contre les journalistes. À Ouagadougou, tout comme en province, ça veut dire que la situation reste la même et les journalistes vivent et travaillent dans la peur ici.
Qui profère ces menaces?
Visiblement, c'est les RSP qui se soutiennent. Sinon, ça ne saurait venir de nulle part si ce n'est pas des RSP qui se soutiennent.
Est-ce que vous parvenez à identifier justement ces éléments du RSP, c'est-à-dire les noms?
C'est très difficile de le faire. Mais de toute façon, quand dans leur précédent passage dans les médias, certains journalistes avaient pu voir quelques visages. Mais la plupart du temps, ces menaces sont rapportées par en fait, des éléments du renseignement qui informent les journalistes du fait qu'ils sont menacés. Bon, nécessairement, ceux qui leur donnent ces informations connaissent ces éléments qui leur donnent les informations. Mais pour nous, c'est après les événements peut-être que nous allons tenter véritablement de chercher à savoir qui exactement proférait ces menaces. Et c'est un travail important qui doit être mené pour voir dans quelle mesure faire punir ces éléments. Je pense que c'est important de passer par là, par des sanctions véritables.
La radio Omega a repris ces programmes hier dans la capitale de Ouagadougou. Est-ce que l'on peut parler d'une évolution positive?
Une évolution positive, je ne sais pas trop, mais de toute façon, il faut dire que les RSP laissent la contrôler la ville maintenant. Il y a d'autres forces qui, en fait, qui contrôlent la ville et qui sont en mesure de protéger les journalistes. Au moins du point de vue sécuritaire, voilà, on ne voit plus les RSP dans les rues. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mais comme je le disais tantôt, les journalistes, il n'en demeure pas moins que les journalistes sont toujours menacés. Et certains continuent à recevoir les menaces.
Malgré les menaces, il y a des journalistes qui ont continué à travailler, à informer sur la situation depuis le jour du coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Comment appréciez-vous ce travail?
C'est là aussi, hein, le journalisme. Autant qu'on peut, bon, on le fait. Mais nous, dès le départ, après les premières attaques, nous avons été clairs. Nous avons demandé aux journalistes vraiment de faire attention, voilà, à cet environnement très hostile dans lequel ils sont en train de travailler. Mais dès le départ, nous sommes conscients que le travail des journalistes n'est jamais facile. Mais si on ne peut pas, on ne le fait pas. Certains sont en train de travailler, d'autres ne travaillent pas. Ce que nous relevons, c'est que présentement là, l'environnement est très hostile pour le travail des journalistes.
Le général Diendéré s'est exprimé à travers des points de presse à plusieurs reprises. Il y avait des journalistes présents. Est-ce que vous auriez posé cette question? Pourquoi les éléments du RSP continuent à menacer les journalistes?
Malheureusement, je ne suis pas. Moi-même, mon organe ne fonctionne pas depuis. Je ne travaille pas. Mais si j'étais sur place, j'allais poser la question.
Notre confrère Gwezou Massanogo joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le pape François est arrivé hier à Washington en provenance de Cuba pour une tournée qui comprend aussi d'importantes escales à Philadelphie et à New York. Qu'attend la communauté catholique et plus généralement l'Amérique de cette visite du souverain pontife et comment peuvent être perçues certaines de ses positions critiquées par des conservateurs? Pour aborder la question, Idrissa Seydoudia a contacté le père Gérald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse Sainte-Famille à New York.
Je pense que c'est une grande joie, j'en suis sûr, au sujet des catholiques. Nous sommes très fiers d'avoir le Saint-Père avec nous. Comme vous savez, l'Amérique en général, c'est un pays religieux. Alors je pense qu'il y a un grand intérêt de part de tous les Américains pour la venue du pape et d'écouter ce qu'il va nous dire et de voir la vitalité de la vie chrétienne où les catholiques vont se rassembler, écouter et prier avec le pape. Et je pense aussi que son message au Congrès des États-Unis et aussi aux délégués à l'ONU à New York seront des grands moments pour voir ce que le pape considère les priorités importantes pour notre monde.
Comme vous le savez, mon père, il y a déjà des critiques. Je ne dirais pas que tout le monde critique le pape, mais il y a des conservateurs qui n'aiment pas sa position sur l'environnement. Il met l'accent sur l'environnement. Et les positions plutôt en flèche qu'il a adoptées récemment sur l'avortement, les homosexuels et le capitalisme. Alors comment est-ce qu'il compte faire face à ce genre de critiques?
C'est intéressant parce que le pape vraiment a entré dans le débat sur le climat et le chauffage et tout ça, et aussi dans le domaine de l'économie et les critiques, ceux qui considèrent capitalisme sauvage. Et je pense que ces gens en Amérique ne sont pas d'accord avec son point de vue. Ils ont l'opportunité d'écouter le pape, mais aussi d'exprimer les raisons pour lesquelles ils ne vont pas suivre ce chemin du pape. Mais à la fois, en ce qui concerne la doctrine catholique, je pense qu'il va trouver en Amérique des fidèles qui soutiennent la doctrine, spécialement au sujet de l'avortement, sur la nature du mariage donné par Dieu, sur la dignité de l'homme et aussi la liberté religieuse qui est un héritage que Dieu nous a donné. Alors, il y a des moments, et je sais qu'il y a des critiques dans la presse, mais le pape, il veut vraiment une discussion. Il nous a dit plusieurs fois qu'il n'aime pas ce que nous appelons en anglais les yes men, les gens qui disent toujours oui.
Les bénis oui-oui.
Oui, exactement. Il veut les gens qui vraiment se sentent libres d'exprimer leur point de vue et de le soutenir avec des raisonnements développés.
C'était le père Gérald Murray de la paroisse Sainte-Famille à New York.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales.
Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le président chinois Xi Jinping a entamé mardi à Seattle une visite d'État de plusieurs jours aux États-Unis. Ces discussions porteront sur des domaines de coopération comme la stabilité de l'économie mondiale ou la lutte contre le réchauffement climatique. L'on s'attend également à ce que soient abordés des sujets litigieux comme la lutte contre la cybercriminalité. Le point avec Lucie Lamont.
Suzanne Rice, conseillère à la sécurité nationale, a effectué 3 visites en Chine. Elle a expliqué lundi qu'à chaque voyage, elle évoquait la question des droits de l'homme.
Detaining lawyers and journalists and anti-corruption activists.
Arrêter des avocats, journalistes et des militants anticorruption porte atteinte à la crédibilité de la Chine et l'empêche d'instaurer une société stable et prospère. Bloquer le libre accès à Internet dans un contexte de mondialisation où le reste de la planète est de plus en plus connecté ne fait qu'empêcher la marche du peuple chinois vers le progrès.
Only cuts off opportunities for the Chinese people.
Des organisations et des hommes politiques américains affirment que les abus des droits humains par le gouvernement chinois se sont aggravés sous le président Xi. Christopher Smith, représentant républicain du New Jersey.
La Chine est en concurrence avec la Corée du Nord dans le nivellement par le bas pour recevoir le prix de celui qui viole le plus les droits de l'homme.
Récemment, lors d'une audience au Congrès américain, des militants ont critiqué les pays occidentaux pour qu'ils s'intéressent davantage aux affaires internes de la Chine. Yang Jiali, de l'ONG Initiative pour la Chine.
I think largely
Je pense que la situation des droits de l'homme en Chine est critique. Je pense que cela est dû aux lois d'apaisement passées dans les pays occidentaux, comme les États-Unis.
Tous ces militants appellent à une nouvelle législation reliant les problèmes des libertés individuelles en Chine avec sa capacité à faire des affaires avec les États-Unis. Ils ont aussi évoqué la question de légitimité du gouvernement chinois, disant qu'il ne représente plus la majorité du peuple. Xiao Qiang, de China Digital Times.
Les dictateurs utilisent le nationalisme pour mobiliser les citoyens, créer des crises et légitimer la répression.
Consolidate the internal support and repression.
Peu avant la visite du président chinois aux États-Unis, Wang Yi, son ministre des Affaires étrangères, a campé le décor.
La Chine va délivrer un message clair au gouvernement, aux citoyens américains et au reste du monde. Un puissant pays d'Asie, avec une histoire remontant à plus de 5000 ans, suivra son propre chemin et continuera de bâtir une société fondée sur le socialisme avec ses propres caractéristiques.
Beijing a toujours rejeté les critiques sur les violations des libertés individuelles, les considérant comme des interférences dans ses affaires intérieures.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Thousand.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, assistée par John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bon mercredi à toutes et à tous.